Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Voilà, les champions olympiques sont là. Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Alors comme tous les jours dans ce studio, je ne suis pas seule, tous les jours bien accompagnée par mon champion olympique, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Comment allez-vous? Je ne vous demande pas ça assez souvent. Vous allez bien, j'espère.
Très bien, je pense que tout le monde s'en fiche, mais c'est gentil de me demander comment je vais.
Allez, on s'en fout, c'est vrai. Au programme aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, on va tenter de répondre à une question que se posent beaucoup de familles. Mon enfant est-il accro aux jeux vidéo? Vous verrez qu'on ne parle d'addiction en réalité que dans peu de cas, et pour les autres enfants, un peu trop collés à la manette, on vous proposera des conseils, des règles à fixer, à la fois ouvertes mais fermes. Pour nous guider dans ce décryptage cet après-midi, notre invité ce sera le docteur Bruno Rocher. Il est psychiatre et addictologue au CHU de Nantes. Il est aussi co-auteur du livre « Mon enfant est-il accro aux jeux vidéo ?» aux éditions Jeune Libé. Ensuite, dans notre chronique, les mots du quotidien, nous vous dirons tout sur la ligature des trompes. Cette stérilisation à visée contraceptive chez la femme, comment se déroule cette intervention, ses suites, on fera le point. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, il sera question de jalousie dans le couple.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question d'Anna qui vit à Paris. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. J'avais une question, je voulais savoir si tous les os avaient la même solidité et dans le cas contraire, pourquoi? Voilà, je vous remercie, au revoir.
Alors pour vous répondre, Anna, on a posé votre question au professeur Bernard Corté, rhumatologue au CHU de Lille. On écoute ses précisions.
Alors est-ce que tous nos os ont la même solidité? La réponse est non. Et si on prend le problème à l'envers, au fur et à mesure qu'on vieillit, on va avoir une probabilité importante d'avoir une maladie des os fragiles qui s'appelle l'ostéoporose. Et il s'avère que cette ostéoporose à la fois a tendance à atteindre certains os plus que d'autres, comme les vertèbres et la hanche. Et à contrario, on sait que certains os ne sont jamais atteints par l'ostéoporose. Par exemple, le crâne, par exemple, également les doigts, par exemple, les orteils. Pour le crâne, c'est assez intéressant de voir que par définition, derrière le crâne, il y a le cerveau. Et que donc, peut-être que la nature fait assez bien les choses pour en quelque sorte d'épargner nos organes nobles. Concernant les autres os, comme par exemple les orteils ou les pieds que j'ai cités tout à l'heure, la raison est que ce sont des os qui comprennent une enveloppe externe qui s'appelle la corticale, qui est extrêmement épaisse et qui fait qu'il est très difficile de se les fracturer, sauf dans un contexte traumatique.
Très intéressant, c'est donc le docteur Corté au micro de Benjamin Lévesque. À présent Jimmy, on va prendre une question d'un autre auditeur pour vous, c'est Véronique, on l'écoute.
J'aurais aimé savoir, on dit que quand on se fait vacciner contre la grippe, il vaut mieux être en forme au départ, pas avoir au moins un minimum un petit rhume. Et la question que je me pose, demain on va se faire vacciner contre le Covid, que se passe-t-il si on est asymptomatique et que l'on se fait vacciner à ce moment-là? Est-ce qu'il faut envisager de faire un test juste avant la vaccination ou quelque chose comme ça? Merci de votre réponse. Au revoir.
Alors Jimmy, c'est une bonne question. Effectivement, si on a le Covid sans le savoir, puisqu'on le sait, hein, les personnes asymptomatiques, ça existe et elles sont nombreuses. Est-ce que si on se fait injecter le vaccin, ben, est-ce qu'on a une idée de ce que ça pourrait donner? Est-ce que ça peut causer des problèmes éventuellement?
Alors, d'une façon générale, avant toute vaccination, il ne faut pas avoir une infection en cours et surtout ne pas avoir de température. L'idée serait que votre corps, lorsque vous avez le Covid, va essayer de lutter et créer des anticorps pour se débarrasser de l'infection. Et si derrière, on rajoute un vaccin qui va produire elle aussi une réaction immunitaire, eh bien à ce moment-là, on peut se dire que votre corps va être dans une espèce de tempête d'immunité qui va peut-être faire que vous allez avoir plus de symptômes et d'effets secondaires. En revanche, il n'y a pas eu d'effet indésirable grave jusqu'à présent et on ne demande pas aux gens de faire une PCR même en pensant qu'il serait peut-être asymptomatique, avant de se faire vacciner. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir, il faut juste être sûr de ne pas avoir de fièvre à ce moment-là.
D'accord, alors si en tout cas on a le Covid, qu'on est Covid positif, mais qu'on est un peu malade hein, pour X ou Y raison, qu'on a de la fièvre par exemple et qu'on a son rendez-vous, bah, ceux qui tombent là pour ce vaccin, on a l'impression que c'est compliqué de prendre des rendez-vous, donc si on l'a, on a envie d'y aller. Il y a un interrogatoire avant vous, le médecin vous allez demander, est-ce que vous avez de la fièvre? Vous allez encore, il y a un filtrage encore au moment du vaccin.
Alors exactement, on pose quelques questions, on demande si la personne...
Vous avez vacciné hier, je crois, une soixantaine de personnes,
exactement,
justement,
et c'était bien, comme les gens sont très contents. Alors tout d'abord, lorsque vous avez le Covid, il faut respecter une période de 3 mois avant de vous faire vacciner. Donc on demande aux gens s'ils ont eu le Covid dans les 3 mois précédents. On leur demande s'ils ont de la température le jour où ils viennent consulter. C'est-à-dire que si vous avez le nez qui coule, ce n'est pas une contre-indication à vous faire vacciner. On demande surtout les risques, si vous avez des allergies, notamment à des médicaments, si vous avez fait des allergies graves, pour savoir est-ce qu'on va devoir vous surveiller un peu plus longtemps. Ça ne veut pas dire qu'on ne vous vaccine pas, mais en temps normal, on vous surveille 15 minutes. Et si vous avez des antécédents d'allergie, on va vous surveiller 30 minutes. On vous demande si vous prenez des anticoagulants, puisqu'on sait que vous allez peut-être faire un petit hématome, donc on va appuyer un peu plus. Et puis par la suite, on vous demandera si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Pour l'instant, ça concerne les personnes âgées ou fragiles, donc pas de risque de grossesse.
Alors justement, on a quelques remontées concernant les effets secondaires qui ont été rapportés en France en post-vaccination, et même 5 décès recensés. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Jimmy, de tout ça ?
Il faut qu'on soit très prudent, ils ne sont pas rapportés à cause de la vaccination. L'étude de pharmacovigilance...
C'est un événement indésirable, c'est pas forcément
après,
un effet indésirable.
À mesure qu'on va vacciner des millions de personnes, ben ces mêmes millions de personnes vont mourir, vont faire un infarctus.
Oui, si je me fais vacciner et que je me fais écraser sur la route, voilà, après c'est valide au vaccin.
Ce qu'on appelle le critère d'imputabilité, est-ce qu'il y a un lien ? À ce stade, il n'y a pas de lien. Le bénéfice de la vaccination est largement supérieur aux éventuels effets secondaires. Donc pour l'instant, on peut se faire vacciner et je vous invite à vous faire vacciner quand ce sera votre tour.
Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Véronique qu'on vient d'entendre, voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir en studio avec nous notre invité du jour. C'est vous, docteur Bruno Rocher. Bonjour.
Bonjour Mélanie.
Vous êtes psychiatre et addictologue au CHU de Nantes. Vous êtes également co-auteur du livre « Mon enfant est-il accro aux jeux vidéo ?» aux éditions John Libay. Docteur Rocher, on va faire d'abord peut-être un état des lieux pour démarrer. En France, est-ce qu'on sait combien d'enfants, d'adolescents, voire même d'adultes, hein, parce que je crois que ça touche plus que les plus jeunes. Maintenant, les grands aussi sont concernés par cette addiction aux jeux vidéo.
Alors, c'est une question qui doit être posée et sur laquelle on va essayer de répondre. Après, c'est tout à fait difficile de répondre précisément entre les enfants qui sont de jeune âge, qui commencent à jouer à 4-5 ans, jusqu'aux grands de 40 ans qui sont joueurs réguliers. Toutes les personnes que je croise me disent « généralement, je joue, effectivement ». Donc là, il y a vraiment une question d'âge qui va être différente. Et puis après, c'est la question des critères qui ne sont pas forcément très précis pour donner des réponses de ce côté-là. Et puis la France n'est pas le pays le plus fort du côté des enquêtes épidémiologiques.
Ouais.
Par contre, ce que l'on sait, c'est des données. Donc on a sur quelques enquêtes de santé publique et des données aussi émanantes de la question de l'industrie, qui montrent que déjà on est sur des taux de population joueuse qui sont extrêmement importantes. Un ado actuellement, c'est 90% de joueurs.
Ouais.
Nos générations de quarantenaires, on va dire, c'est 60-70% de joueurs.
Ouais.
Donc on est dans des utilisations qui sont extrêmement importantes. Et dans ce nombre d'utilisateurs, il y a une proportion de joueurs problématiques qui globalement va de 1% pour les enquêtes qui servent beaucoup les critères diagnostiques que aux questions très sévères, à jusqu'à 10% qu'il y a quelques excès qui peuvent être présents.
Vous jouez, vous, Jimmy, aux jeux vidéo ?
J'ai joué à une époque quand j'étais un peu adolescent et dans les débuts des études de médecine, j'étais la nuit un peu perturbé. Je crois que c'est pour ça que je suis un peu bizarre. Alors, on pense justement que l'addiction aux jeux vidéo, c'est un problème de garçons, que c'est les petites filles ou les filles ne sont pas touchées. Est-ce que c'est un mythe ou c'est une réalité ?
Non, alors ça, c'est une réalité observée en tout cas par l'ensemble des cliniciens qui s'intéressent à cette question. C'est-à-dire qu'on sait que l'utilisation des jeux vidéo, c'est un peu plus les garçons, mais globalement, il y a un rattrapage qui s'est fait sur les dernières années. Et pour le public des enfants, ados, jeunes adultes, on a 50-50, enfin 45-55.
Comme pour l'alcool, comme pour le tabac, finalement, tout s'aligne. Hein,
alors,
ça, ouais.
Oui, alors il y a cette notion-là, mais là, du coup, c'est à l'inverse. C'est-à-dire que dans la population problématique de joueurs excessifs, la différenciation sexuelle se maintient et reste très genrée avec des garçons qui sont largement
les filles sont joueuses,
touchées.
Mais moins souvent problématiques.
Exactement.
Ils ont quel âge en moyenne les ados qui arrivent dans votre service, on va dire, dans votre consultation pour ce problème-là d'addiction aux jeux vidéo ?
Alors, si on parle d'addiction aux jeux vidéo, c'est-à-dire la frange plutôt sévère des patients qui sont accueillis dans des espaces de soins dédiés par rapport à une frange plutôt en difficulté, voire en forte difficulté, on est sur une moyenne d'âge à 23 ans qui est assez stable. Parce que nous, on avait ces chiffres-là il y a 5-6 ans, on les a refaits, on est à peu près à la même chose. Et c'est des chiffres qui sont retrouvés au niveau international dans quelques études et au niveau français.
Alors là encore, on ne sait pas si c'est un cliché, mais est-ce que celui qui est addict aux jeux vidéo va avoir aussi un comportement introverti, avoir finalement peu d'amis, peu sortir, ou c'est finalement il peut avoir aussi une vie sociale très riche et en plus être addict aux jeux vidéo.
Alors il y a deux réponses à la question que vous posez. Il y a le fait que d'avoir un affaissement de la vie sociale et une limitation de la vie sociale, c'est un des critères de l'addiction aux jeux vidéo. Donc par définition, si on est addict, on a limité ces éléments-là. Par contre, effectivement, la question de la causalité, de l'étiologie de la problématique, quand on est dans des difficultés de mise en lien à l'autre, souvent l'écran, le média jeux vidéo est un facilitateur par rapport à ça et permet de remplir chacun d'une vie sociale qui lui convient. Et du coup, quelqu'un qui a ces difficultés de socialisation par un trouble anxieux ou d'autres éléments de personnalité, sera plus propice à tomber, en tout cas c'est l'impression et la lecture que l'on a des situations dans une situation d'addiction aux jeux vidéo.
Alors peut-être plus étonnant, enfin je ne sais pas, mais vous l'écrivez dans votre livre en tout cas, ces accros aux jeux vidéo, ils seraient plus intelligents. Est-ce que ça veut dire que la pratique des jeux vidéo pourrait rendre plus agile au niveau intellectuel, ou est-ce que c'est parce que justement ils sont peut-être un peu surdoués qu'ils vont se renfermer dans ce prisme-là des jeux vidéo?
Alors pour le coup, je réponds plutôt la deuxième. Effectivement, on n'a pas écrit dans le livre qu'ils sont plus intelligents. On a écrit que dans les joueurs qui sont problématiques, on retrouve une population surreprésentée qui reste à étoffer d'un point de vue méthodologique, mais vu comment ça se perçoit par l'ensemble des cliniciens, je pense que c'est une réalité, qui reste à étoffer d'une population de HPI, qu'on appelle HPI, haut potentiel intellectuel, oui, surdoué, etc. Et ça, c'est un type de patient qui, dans le déclaratif de l'interrogatoire, nous dit, bah oui, effectivement, j'ai été diagnostiqué quand j'étais petit, je suis ici, je suis là. Et généralement, ça correspond à des éléments de difficulté, là aussi, de mise en contact avec l'autre, qui trouve un intérêt à trouver une socialisation par le biais des jeux.
Alors là, on aborde les jeux vidéo, et c'est souvent le cas, par le biais des problèmes que ça peut engendrer, mais est-ce qu'à l'inverse, les jeux vidéo peuvent avoir aussi des vertus, quelque chose de positif, je ne sais pas, apprendre à perdre à FIFA ou à un jeu, est-ce que c'est une bonne chose?
C'est ça qui vous a rendu si bon, Jimmy,
c'est ça,
peut-être.
C'est d'apprendre à perdre, j'étais beaucoup perdu.
Bah, ça apprend à réussir ses concours de médecine, j'ai le même profil de
je
jeu que toi.
Je dois tout à ça, d'ailleurs.
Pour le coup, mais effectivement, de toute façon, le jeu, par définition, c'est ludique, on y prend du plaisir, mais c'est un apprentissage. Tous les jeux
bon
servent
le
à ça aussi
jouer,
dans l'enfance,
sait, hein,
et c'est une stimulation cérébrale qui est tout à fait intéressante. Et dans le jeu vidéo, ça fonctionne. J'allais dire de la même manière, avec des particularités qui ont trait à la question. Mais justement, ce matin, on était sur le congrès d'Encefa, qui est un gros congrès de psychiatrie,
qui a lieu en ce
où
moment,
on a
ouais.
voulu voilà, montrer par cette session-là, non pas la question de l'addiction ou de choses qui ont déjà été dites, mais les bienfaits de la vie sociale, de qu'est-ce que l'on a de si intéressant dans le jeu vidéo. Et je pense que les sessions seront revisibles à regarder.
D'accord. Et à l'adolescence, justement, c'est encore plus nécessaire. Il se passe quoi pendant cette période de transition, finalement, qu'est l'adolescence? Ça permet aussi de créer du lien social, de jouer aux jeux vidéo. Donc, toujours là, dans cette idée de positif. Hein.
Ouais, alors clairement, dans l'idée de positif, l'adolescence, c'est un bouillonnement hormonal. On connaît la question de la biologie de l'adolescence. On connaît aussi la question de la psychologie de l'adolescence. L'adolescence, c'est partir de l'enfance, de l'insouciance, du jeu, et se détacher de ses parents et prendre son autonomie psychique. Et des fois, dans ce moment d'autonomisation, quand ça frite un petit peu à la maison, qu'il y a des tensions, qu'il y a des difficultés, le jeu vidéo et le cortège de personnes qui sont présentes dans le monde du jeu vidéo et aussi une culture et une association qu'on a envie d'avoir auprès de ces personnes-là et du coup qui permet de se décaler de la vie parentale. Puis comme vous le dites, c'est un vrai défouloir particulièrement pertinent, on va dire.
Et est-ce qu'il y a des jeux qui sont plus à risque d'addiction? Je sais pas, est-ce que les jeux de guerre sont plus à risque qu'un jeu de foot ou Super Mario, ça peut être exactement le même niveau d'addiction? Est-ce que vous avez constaté des choses?
Vous jouiez à Super Mario, vous, j'en suis sûr.
Non, je jouais à Warcraft.
Je joue à Age of Empires. Mais effectivement, c'est la question. Les jeux à risque, c'est les jeux en ligne, de toute façon, et des jeux qui sont suffisamment stimulants et enrichissants et qui permettent de développer une vie sociale à l'intérieur du jeu vidéo, qui du coup vont être suffisamment happants ou contrebalançants de la vie réelle pour que l'individu, le patient, tombe dedans.
Sans faire de publicité, mais c'est ça, c'est des jeux comme Warcraft. Alors moi, je ne sais même pas de quoi on parle, honnêtement, hein, mais ouais. Warcraft, moi, j'ai entendu beaucoup parler de Fortnite, beaucoup de parents ont des soucis avec les enfants qui jouent à ce jeu-là. Ils sont totalement accros. Ouais. Pourquoi ça rendrait plus accro ce jeu-là, qui est gratuit en plus, je crois, au départ?
Oui, il est gratuit. Mais... Alors, tous les modèles économiques sont passés sur des jeux gratuits, hein, globalement, et avec des paiements en ligne, et
après,
à l'achat, la petite
en fait,
action, etc. Donc ça, c'est vraiment de la modélisation économique. Il y aurait beaucoup à dire de ce côté-là. Fortnite fait couler beaucoup d'encre. Pas forcément parce qu'il est plus addictif que les autres. En tout cas, moi, personnellement, je pense ça.
C'est pas ce que vous voyez débarquer en consultation. C'est pas
si,
forcément...
on les voit plus, ouais. Mais parce que Fortnite est le gros vendeur. Voilà, il y a des jeux qui sont de petite communauté. Celui-ci est un jeu particulièrement vendeur et qui est la star des cours d'école, notamment sur la période collège-lycée. Donc on est sur un jeu qui est surreprésenté en consultation aussi parce qu'il y a un biais d'échantillonnage et qui est surreprésenté dans le jeu utilisé par nos générations.
Mais il y a des adultes accros à Candy Crush aussi. Hein,
oui, alors,
il y a pas besoin d'avoir des
ça, c'est intéressant. Non,
moi, j'ai été un peu accro à celui-là. Ouais.
J'allais répondre à Jimmy sur la question des jeux. Il y a des jeux qui sont plus à risque que d'autres, ça c'est une évidence. Candy Crush, tout le monde y joue un petit peu, mais c'est un petit peu, on garde une vie sociale généralement, on garde quelque chose. Les patients qui viennent en addiction, et on le redéveloppera sur la deuxième partie, c'est des patients qui ont perdu leur vie sociale et qui ont des conséquences négatives massives. Il n'y a pas ça avec Candy Crush.
D'accord. Docteur Rocher, nous allons poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui, notre invité en studio avec nous, c'est le docteur Bruno Rocher. Vous êtes psychiatre et addictologue au CHU de Nantes et également co-auteur du livre « Mon enfant est-il accro aux jeux vidéo ?» aux éditions John Lee Bay. Alors docteur, je crois que la période la plus à risque pour devenir accro tout court, c'est de toute façon l'adolescence. Quand on parle d'alcool, de tabac, ça commence souvent à ce moment-là. Pourquoi ?
Ah ben là, on a commencé à l'expliquer tout à l'heure, effectivement, la question de l'adolescence et la question de la socialisation, on va trouver un dérivatif aux parents pour trouver un groupe d'amis sur lequel on va s'autonomiser. C'est aussi la question de l'expérimentation des limites de soi. On peut parler de ça beaucoup, ça a été beaucoup théorisé sur la question de l'adolescence. C'est à quel point je vais être capable de surmonter le sommeil qui peut me manquer, à quel point je vais être capable de boire de l'alcool et voilà, qu'est-ce que je peux faire comme les copains et aller m'initier au tabac, au cannabis ou autre. Et la question des jeux vidéo, parce que la question des addictions comportementales est quelque chose qui prend plus de place là actuellement et qui est plus reconnu. Et qu'on accompagne mieux, qu'on reconnaît mieux, et sont aussi une phase d'expérimentation. Les problématiques boulimiques de scarification chez l'adolescente sont des facteurs d'initiation de démarche qu'il faudrait réussir à mieux repérer pour accompagner ces patients au plus tôt, avant que ça dégrade.
On a parlé tout à l'heure des jeux qui pouvaient peut-être être à risque d'entraîner une addiction, mais est-ce qu'à l'inverse, est-ce qu'il y a des enfants qui ont un profil particulier qui font qu'ils vont plus facilement basculer dans l'addiction aux jeux vidéo, ou pas spécialement ?
Absolument. De toute façon, la constitution addictive et l'évolution vers des addictions plus ou moins sévères est une évolution qui va être toujours fluctuante. On sent des choses qui ne sont pas très sévères, qui remontent à plus, un an après, ça redescend. Le profil addictif est toujours un profil à vérifier sur une évolution de vie entière. C'est des profils qui vont tenir compte de trois éléments, qui sont la question de l'individu et de ses fragilités, de son profil, de sa personnalité, de ses troubles antécédents et tout ça. La question du jeu en soi, et tous les jeux, comme on le disait, n'ont pas les mêmes vertus addictives et n'ont pas les mêmes ressorts. Puis la question de la société dans laquelle on vit, des lois qui sont présentes, de la fourniture sur le marché de tel ou tel objet.
À partir de quand, puisque c'est notre sujet quand même aujourd'hui, on doit se dire en tant que parents, grands-parents, enfin d'ailleurs tous les gens de la famille peuvent s'en mêler finalement, on les voit ces jeunes jouer. À partir de quand, c'est quoi le déclic pour un parent pour se dire tiens là, il a peut-être dépassé le joueur basique qui joue un peu pour s'amuser, on est dans un truc un peu pathologique, c'est quoi qu'il doit faire pour ça?
La question pathologique, elle vient qu'il y a des signes qui apparaissent. Alors déjà on va faire l'inverse, c'est-à-dire à partir de quand on ne s'inquiète pas? Quelqu'un qui joue même beaucoup, alors il y a certaines heures,
c'est
au-delà de 10 heures par jour, forcément
ouais.
Ça commence à poser problème. Hein. Les patients qui viennent nous voir en consultation, c'est souvent 10-15 heures par jour sur des mois de suite.
Ouais.
Donc dans des situations plus limitées, au-delà de plusieurs heures par jour, mais ça aussi c'est des modèles qui dépendent des familles, et qu'il y a plaisir, qu'il y a une vie de loisirs qui reste présente, que la vie familiale se passe correctement, etc. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Et à l'inverse, c'est justement quand la vie familiale va devenir particulièrement conflictuelle, mais là c'est l'adolescence.
Qui vient même plus manger.
C'est
à table, il reste devant ses
il
jeux.
Il ne vient plus, il reste enfermé dans sa chambre, il se coupe de ses amis, il ne se consacre qu'à une vie sociale par Internet, et ça, ce n'est pas possible. Autant ça peut être une bonne phase de prise de distance, mais à condition que ce soit mis à l'intérêt de développer sa vie dans la suite en réel.
Est-ce que les enfants ou les adolescents qui vont avoir des problèmes d'addiction aux jeux vidéo, eh bien on peut peut-être révéler d'autres problèmes derrière, un problème à la maison, un problème à l'école, avec de l'harcèlement? Est-ce qu'il faut aller plus loin que l'addiction aux jeux vidéo en se disant il y a peut-être autre chose derrière ça?
C'est sûr qu'il y a autre chose. Il n'y a aucun intérêt de rester à l'addiction aux jeux vidéo, c'est moi qui vous le dis. Et souvent, on nous fait ce reproche-là, mais qu'il y a un court-circuit qui galvaude ce que l'on propose.
Jimmy jouait la nuit pendant ses études de médecine parce qu'il était stressé, c'est simplement ça,
je pense. Exactement. Mais du coup,
on peut l'analyser assez simplement.
Exactement. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a un stress d'un événement de vie ou d'une phase particulièrement pénible, qui est la première année de médecine, par exemple, ou des choses comme ça. Et du coup, la question du diagnostic de jeux vidéo n'a d'intérêt que d'aller voir ce qui se passe derrière. C'est capter les patients à un moment où ils sont en difficulté, avec des choses qui des fois sont quand même très sévères, ne serait-ce que par l'utilisation du jeu, mais pour aller comprendre ce qui se passe derrière.
Mais donc on ne peut pas donner de repères de consommation, dire à partir de, je ne sais pas, 5 heures par jour pendant 3 mois, il est addict, ça, on n'a pas de repères comme ça, non?
Alors si, le repère de la CIM, du coup, de la catégorisation qui a été faite par l'OMS il y a 2 ans, est du côté... Alors il n'y a pas de question horaire, mais par contre il y a une question de pendant combien de temps, c'est pendant 1 an. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une évolution au long cours de quelque chose qui vient envahir le quotidien de l'individu et sa problématique. Donc on n'est pas du tout sur un week-end où il a fait 10 heures de jeu dans un week-end, ça arrive et c'est justement les expérimentations de l'adolescence. Mais quand ça a un impact pendant plusieurs semaines de suite, là il faut s'inquiéter, aller faire une consultation.
Alors on l'a vu avec Fortnite, c'est des jeux qui sont souvent gratuits, mais derrière il y a des achats intégrés et justement un enfant qui va utiliser tout son argent de poche dans les jeux vidéo, est-ce que c'est un critère qui doit nous alarmer, ou qu'on peut se dire, bah, il fait ce qu'il veut de son argent, il a 30 euros par mois, s'il veut mettre 30 euros dans le jeu vidéo, bah, libre à lui.
C'est une question de modèle éducatif sur laquelle le corps médical a quelque chose à prononcer, mais le corps sociétal au sens large, hein, doit dire quelque chose. Moi, d'une certaine manière, s'il dépense son argent dans le jeu vidéo, bah, libre à lui, mais il faut l'aider à percevoir qu'il ne pourra pas le dépenser dans une paire de baskets, dans d'autres choses, dans de l'alimentation qui lui ferait plaisir, ou certains éléments.
Est-ce que si les résultats scolaires baissent aussi, ça peut être un déclic de dire, tu joues peut-être trop aux jeux vidéo maintenant,
voilà,
c'est possible
c'est
ça
les critères qu'on va regarder, de toute façon, c'est l'état physique. On voit des jeunes garçons, hein, le plus souvent, comme on disait tout à l'heure, qui arrivent très amaigris avec des limitations alimentaires qui ne sont pas du tout dues à une phobie, mais par le manque d'intérêt à l'alimentation et le temps passé à s'alimenter. C'est le décrochage scolaire, c'est l'absence de tout projet de vie sociale ultérieure, hein, quand c'est sévère, c'est ça.
Et chez l'adolescent, c'est peut-être compliqué, c'est une période un peu difficile de la vie où on change un peu d'humeur, on est parfois un peu
grincheux.
Il y en
a beaucoup des renfermés des ados.
Exactement.
De toute façon,
et comment on fait pour la part des choses entre c'est les jeux vidéo ou c'est son comportement, il est comme ça et puis ça lui passera.
Et ben, loin de moi l'idée de remplir les consultations de mes collègues, soit psychiatres, d'ados,
sont
soit
déjà
psychiatres
débordés,
généralistes
ouais.
ou psychologues qui sont déjà bien débordés dans cette période de confinement, mais c'est là où le regard extérieur de quelqu'un qui a l'habitude, il est fondamental. Mais le regard extérieur, ça peut être le médecin généraliste qui connaît la famille et l'enfant depuis bien longtemps, ça peut être un voisin, ça peut être un prof plus ou moins principal, mais quelqu'un qui vient du coup donner quelque chose d'une mise en relief de la relation entre l'enfant et ses parents, parce que si on reste dans le huis clos, là effectivement, la réponse ne peut pas se répondre.
Et c'est quoi la réponse ? Alors vous dites, on peut aller voir d'abord le médecin de famille, le médecin traitant ou un psychiatre, on y va éventuellement avec l'enfant ou il va seul. Et c'est quoi la réponse à cette addiction ? On n'a pas des médicaments contre les jeux vidéo, non ? Enfin, je sais pas.
C'est quoi la réponse que nous on donne en tant que professionnel ?
Ouais, ah bah
c'est le décryptage que l'on évoquait tout à l'heure, à savoir qu'est-ce qui se passe derrière. Effectivement, s'il y a un deuil pathologique d'un grand-parent qui est décédé il y a un an et que le refuge c'est le jeu vidéo, le traitement va pas du tout être le même. Quand j'entends traitement, c'est bien sûr pas forcément la chimie, c'est tout ce qui va être
la thérapie,
discuté.
Ouais.
Voilà. La même chose que si on répond à un conflit familial ou que si on répond à une baisse de l'estime de soi ou qu'on a trouvé, parce qu'il y a aussi ça des fois dans le jeu vidéo, un objet tellement plaisant que l'on va avoir besoin de rester collé à celui-ci et sans cause évidente apparente. Et ça, c'est purement addictif.
On revient très vite avec cette émission consacrée à l'addiction aux jeux vidéo.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans Sans Rendez-vous et nous accompagne cet après-midi, c'est vous, docteur Bruno Rocher. Je rappelle que vous êtes psychiatre et addictologue au CHU de Nantes. Alors, on parle de jeux vidéo avec vous et comment prévenir finalement d'une possible addiction aux jeux vidéo. Au tout début, vous dites, en tout cas, quand les enfants vont démarrer, parce qu'un jour ou l'autre, peut-être, ils y seront confrontés, ils auront envie de faire comme les copains, d'acheter une console, de jouer. Vous dites qu'il faut, on s'y met avec eux, en fait, la première fois. C'est important que les parents accompagnent l'initiation, si je puis dire, c'est ça ?
Oui, tout à fait. C'est extrêmement important. Je veux dire, c'est à la famille, aux parents, de décider de quel âge ils fourniront un jeu vidéo, des smartphones qui servent à ça maintenant, une console ou même un ordinateur, mais c'est rare qu'on commence comme ça actuellement. Et il faut que ce soit accompagné. C'est-à-dire qu'on en discutait hors antenne tout à l'heure. On sait très bien qu'il y a des profils d'enfants qui sont plus ou moins sensibles à l'utilisation des jeux vidéo, ce qui va plus ou moins influencer leur comportement et déclencher quelques moments d'agressivité ou d'irritabilité qui sont toujours possibles. Donc, sur ces moments d'enfance notamment, il faut être particulièrement vigilant en tant que parent et accompagner à mesure. C'est-à-dire qu'on va avoir des enfants qui vont décrocher rapidement au bout de 10 minutes, 20 minutes et qui vont s'autoréguler, on n'aura pas grand-chose à faire en tant que parent, et d'autres qui vont rapidement avoir une appétence tellement importante qu'il faudra organiser des moments de décrochage.
Alors, vous dites, c'est aux parents de fixer l'âge à partir duquel un enfant peut jouer aux jeux vidéo, mais est-ce qu'on aurait quand même quelques repères ? Jamais avant, je ne sais pas moi, 6 ans, à partir de 10 ans, on peut être un peu plus tranquille. Est-ce qu'il y a un âge
des
limite
repères,
parce que parfois,
ouais.
on se dit Super Mario à 4 ans, pourquoi pas ?
C'est pas bien méchant,
c'est pas bien méchant.
Ouais.
On voit avec les enfants qui jouent avec des tablettes, hein, tout petits, ils font déjà des tout petits jeux, ils s'amusent. Donc, où est-ce qu'on place le curseur ?
Alors, le curseur qui est souvent donné pour la question de l'initiation vraiment débutante, c'est 3 ans, pas avant 3 ans, qui sont donnés. Et pourtant, on voit bien tous dans nos entourages, et quand je vois vos yeux, c'est la radio.
Ouais,
mais
on voit des gamins de 18 mois dans des poussettes avec des trucs.
On le voit très régulièrement. Effectivement, c'est quelque chose qui ne devrait pas être réalisé parce qu'effectivement, c'est une mauvaise habituation.
Mais 3 ans, ça me semble un repère. Alors, moi, si je vous parle en tant que papa. Mais
moi, ma fille a 3 ans, s'intéresse pour aux jeux vidéo, mais elle voit son frère jouer, ça l'intéresse pas plus que ça, mais ça pourrait.
Ouais,
hein,
mais il y a des enfants qui font rapidement du puzzle, du dessin sur numérique. Quel intérêt de faire sur numérique vis-à-vis de le faire sur papier ?
Oui, parce qu'un puzzle numérique, c'est déjà un jeu vidéo.
Voilà,
quoi,
c'est déjà une habituation à cet outil, à cet intérêt-là. Et puis il y a des choses qui peuvent être très riches et intéressantes. Mais pour le coup, nous, on a mis ça dans le bouquin et j'allais répondre à votre question. Je pense que c'est à la famille de s'intéresser, d'aller chercher des ressources, quelles qu'elles soient, et de se faire une espèce de planning familial en se disant bah, nous, non, il n'y aura pas tant de jeux vidéo avant 4, 5, 6, 12 ans, etc. Et ils se font leurs propres habitudes et se nourrissent à ces différentes sources qui peuvent être présentes. Il n'y en a aucune qui fasse réellement consensus. Hein.
Est-ce que le type de jeu vidéo a une importance ? Pendant le premier confinement, j'ai failli craquer et me dire on a tellement rien à faire qu'on va acheter.
Et vous avez tenu bon.
On a tenu bon, on va acheter une Nintendo Switch, on va jouer ensemble, ça va être sympa, ça va être ludique. Est-ce qu'on a intérêt à privilégier des jeux en groupe, comme ça tu vas jouer avec ton petit frère ou ta petite sœur, ou s'il veut absolument un truc où il joue seul, on le laisse tranquille.
Et ben dans l'autre préconisation, il y a la question de la limite d'âge qu'on a un petit peu abordée, là, on a survolé là, mais l'autre question, c'est d'avoir de l'intérêt à jouer avec ses enfants. Alors c'est soit s'intéresser à ce qu'ils font dans le jeu vidéo et discourir avec eux autour de ça, soit même pratiquer avec eux. Et je pense que d'avoir...
Oui, j'ai essayé, hein. Il y en a un où il faut danser, c'est trop fatigant.
D'avoir une activité physique via le jeu vidéo, c'est particulièrement adapté. Et c'est ce que l'OMS, là aussi, a diffusé sur le mois d'avril. Mais du coup, le fait d'avoir cette possibilité de jouer avec les enfants, quand on a une Switch ou n'importe quelle autre console de salon, il y a des jeux qui appartiennent à la petite sœur, au grand frère, au papa, à la maman. Et c'est important, à mon avis, dans le panel, d'avoir un jeu qui permette de jouer en famille et qui soit transversal. Et c'est extrêmement ludique et passionnant, notamment les jeux de danse, comme vous dites.
Oui, mais c'est difficile, hein, faut être en forme. Mais c'est pas mal d'allier le virtuel et l'activité physique quand même. Est-ce qu'il y a, justement sur les jeux, je crois qu'il y a des signalétiques. Alors c'est vrai que moi, ça m'est arrivé d'acheter un jeu où il y avait écrit interdit au moins de 12 ans. Il m'a dit, oh, mais ça va, tous mes copains y jouent, il avait que 10 ans. Est-ce que c'est important quand même de les suivre, ces signalétiques?
Alors, je pense que c'est extrêmement important de les suivre de principe. Encore une fois, le monde ne va pas s'effondrer sur un gamin équilibré si vous achetez à 11 ans un interdit à moins de 12. Mais c'est quand même des points de repère, notamment pour des familles qui ne seraient pas très habituées à ces questions-là, de pouvoir s'appuyer sur ces repères-là, parce que non seulement il y a des histoires d'âge qui sont notées sur les jaquettes des jeux, et puis il y a des questions de contenu, est-ce que c'est de la violence, du sexe, d'autres choses qui sont présentes à l'intérieur, et il faut s'y atteler.
Ouais. Est-ce que d'emblée on fixe des règles claires en disant, écoute, tu as le droit à jouer aux jeux vidéo, mais ce sera une heure le samedi, une heure le dimanche?
C'est ma règle ça, Jimmy, vous êtes en train de me les piquer.
Oui, mais est-ce que c'est une bonne idée ce que fait Mélanie Gomez? Je demande d'imposer des règles.
Je vous rajoute une heure le vendredi, non, on a 3 heures dans la semaine.
Bon, alors jusqu'au vendredi, c'était parfait.
Ouais.
Non, réellement, toute règle est bonne à prendre tant qu'elle est tenue, pour le coup. C'est important que le couple parental décide, ou le parent isolé.
L'heure, elle se transforme souvent en une heure et demie. Est-ce que c'est grave, docteur?
Je ne vais pas vous dire que c'est grave parce que vous n'avez pas dormi de la nuit. Mais si je pourrais vous dire que, quand même, c'est extrêmement important de poser une règle qu'on est en capacité de tenir. Ouais. C'est-à-dire que si on pense que c'est une heure et demie et qu'on va. Voilà, c'est bien de tenir cette règle-là et de l'afficher et de la tenir à deux.
Et si jamais on voit que ça dérape, moi j'aurais tendance à me dire, bah écoute, vu que c'est comme ça, bah je range la console et tu n'y joues plus.
Non, c'est faux. Vous dites, je la jette par la fenêtre. Je vous connais un peu.
J'avoue,
je connais vos méthodes éducatives. Je la passe par la fenêtre, ta console.
Non, et j'ai des amis d'ailleurs qui ont fait ça, qui ont cassé des PlayStation parce qu'ils n'en pouvaient plus,
c'est
que leur ado.
Quand même, hein.
Bah, ils l'ont cassé. Mais est-ce que c'est la bonne méthode, le sevrage brutal?
Non, le sevrage brutal est une mauvaise méthode et pourtant,
le vol plané
et pourtant
de
il est très, très souvent entendu. Alors nous, sur la version pathologique, on l'entend régulièrement et souvent c'est un peu des drames parce que casser la console, bah, c'est pas très écologie friendly, mais bon, à la limite, ça peut aller. Mais casser la console et avoir un gamin qui du coup était dans un processus probablement pathologique d'addiction et qui soit menace de passer par la fenêtre, soit par lui-même, soit à des moments d'excitation qui sont particulièrement dévastateurs aussi, de crise, de casser des choses à la maison, il faut faire attention. Donc nous, on a toujours, et c'est aussi un des chapitres du bouquin, dit qu'il fallait absolument prévenir le sevrage, qui peut être une bonne méthode imposée par les parents. Ça
Donc on pose un ultimatum, on dit, si tu n'arrêtes pas, je l'achèterai par la fenêtre.
J'essaie déjà de comprendre ce qui se passe pour toi. Si on ne réussit pas à trouver un terrain d'attente et que tu continues à être dans une pratique qui est aussi déstructurante et aussi grave de ce que l'on perçoit malgré ce qu'on a compris de l'intérêt pour toi, on posera une règle et on te coupera la console. Tu as, je ne sais pas moi, une semaine, deux semaines, trois semaines pour te rééquilibrer. Il y a un moment, ce sera stop et on l'enlèvera.
Et pas de chantage ou de menace en disant, écoute, si tu continues comme ça, pour la peine, tu n'iras pas en vacances ou... Je ne sais pas, tu ne mangeras seul à la maison.
Je crois qu'elle est nulle, votre méthode éducative.
Non, mais on peut avoir. Alors, c'est pas ma méthode éducative, mais on peut se dire en contrepartie, on va le punir. Est-ce que c'est contre-productif?
Oui, je pense que c'est contre. Je pense que la menace en soi dans la méthode éducative est quelque chose qui est contre-productif. C'est pas directement mon boulot de psychiatre, mais on est dans quelque chose qui déborde et qui finalement fait plus de tort que d'autres. Si on limite le jeu vidéo, c'est parce qu'on a constaté que la pratique posait problème et envahissait le quotidien de l'enfant, avait des troubles du sommeil, avait un défaut de socialisation, était trop excité à la suite de la partie. Et là, on repose quelques règles à l'intérieur du domicile.
Alors, admettons, on arrive à fixer quelques règles à la maison, une heure et demie le vendredi, une heure le samedi, une heure le dimanche, on le tient bien à la maison, on est content de soi, mais les enfants parfois ils vont chez les copains, chez les cousins, et là ça peut être orgie de jeux vidéo. Moi ça m'est déjà arrivé, hein. Il a des week-ends où il a passé que chez des amis, la journée entière à jouer aux jeux vidéo. Est-ce que c'est grave si en dehors du foyer finalement il fait n'importe quoi?
Non, j'allais dire c'est le jeu ma polucette, parce que pour le coup c'est pas grave. Je pense que l'enfant va se structurer autour des règles qui vont être proposées par ses parents. S'il déborde en dehors, notamment au moment de l'adolescence, je vous pose pas la question en direct mais on l'a tous fait,
chez des copains, ça veut dire déjà qu'il a des copains.
Ça veut dire qu'il a des copains, ça veut dire qu'il y a une tentative de transgression. Et ce qui va être important pour lui, c'est comment on va, nous en tant qu'adultes, répondre à cette transgression-là. Et puis, bien sûr, il ne faut pas que les transgressions soient hors la loi, extrêmement, extrêmement graves. Mais...
Alors, vous expliquez dans votre livre qu'il faut essayer de renouer le dialogue, notamment lorsqu'on veut réguler un adolescent, notamment au travers d'un moyen assez rigolo, des post-it. Est-ce que ça marche entre mari et femme? Est-ce qu'on peut aussi communiquer en tant que post-it?
Là, il a besoin de vous, mais pour des raisons personnelles.
Alors du coup, la question du post-it, c'est une question qu'on a débattue beaucoup avec Lucie, avec qui on a écrit ce livre-là. C'est plutôt sa méthode à elle. Moi, je ne l'avais pas en tête, mais je trouve que c'est une très bonne méthode. Si elle illustre qu'il faut trouver des terrains de jeu avec ses enfants autour de cet échange-là, autour du jeu vidéo
elle
et de l'éducation.
Elle consiste en quoi, cette méthode?
Elle consiste juste bêtement à scotcher des post-it par-ci, par-là, dans les lieux stratégiques sur lesquels l'enfant va passer pour aller voir, tiens, en fait, combien de temps tu as joué, ou rappelle-toi que... Ou, voilà,
on écrit quoi dessus? Donc, aujourd'hui, tu as joué 2 heures aux jeux vidéo, par exemple?
Ouais, ou rappelle-toi que tu ne dois pas jouer plus de 2 heures de suite, ceci, cela. Ça dépend de l'âge, ça dépend de la situation.
Jimmy, rappelle-toi que tu dois ramasser tes chaussettes, n'est pas les mêmes dans
l'heure. C'est gentil,
pas violent, au moins.
Ma femme vous a appelé, à mon avis, c'est ça. Vous transmettre quelques informations.
C'est écrit sur le frigo.
Est-ce qu'on doit parler au professeur, justement, qu'un enfant souffre d'addiction aux jeux vidéo, ou ça doit rester un peu privé? On a parfois honte de révéler ça. On se dit, bah non, mais ça ne regarde pas trop le prof. On va juger, que parent.
Il faut absolument lui en parler, à mon avis. C'est extrêmement important, notamment quand ça se dégrade sévèrement, ou même qu'on est plutôt dans une phase d'inquiétude, de souder les avis. C'est aussi ce qu'on fait dans les diagnostics d'autisme ou de TDAH, où pour le coup, on est dans l'idée de voir ce qui se passe à la maison, ce qui se passe au milieu social et au milieu scolaire. Et c'est cette convergence d'avis dans différents milieux qui va être aussi très importante pour poser le diagnostic. Et je pense pas... Alors, je peux comprendre la honte qu'il y ait par rapport à ça, mais c'est important de pouvoir la dépasser pour aussi obtenir auprès du tiers qu'est le professeur un soutien qui permet aussi d'avoir une oreille différente pour l'enfant, des fois.
Alors, il y a beaucoup de parents d'aujourd'hui qui ont connu les jeux vidéo. Jimmy le disait, lui, il a joué pendant ses études, par exemple. Il est papa de 3 enfants. Mais c'est pas le cas de tous les parents qui nous écoutent. Certains, pour eux, c'est oulala, les jeux vidéo. Ben, moi, j'en connais pas beaucoup, par exemple. Mais je crois qu'il existe, et vous en parlez dans votre livre, des médiateurs numériques. Ça sert à quoi? C'est quoi l'utilité de ces médiateurs?
Globalement, c'est des associations qui s'intéressent à la question de la culture numérique, vidéoludique ou des questions technologiques comme ça, qui sont à disposition dans les différents domaines, soit municipaux, soit dans des associations plutôt du côté de l'éducation nationale, et qui ont une qualité, une compétence particulière autour de ça. Et pour le coup, il y a des profs qui peuvent dire, bah non, moi j'y connais rien en jeux vidéo, je pourrais pas trop vous aider par rapport à ça, je connais l'éducation mais je connais pas les jeux vidéo. Bah, eux, ils sont là pour apporter cette connaissance intrinsèque du milieu jeux vidéo et numérique, ordinateur.
Très bien. Merci beaucoup, docteur Rocher, d'avoir été avec nous cet après-midi. Pour tous ces conseils, je suis sûre qu'ils seront très profitables aux parents qui nous écoutent. Je rappelle le titre de votre livre, « Mon enfant est-il accro aux jeux vidéo ?» livre que vous avez coécrit avec Lucie Gaïdra aux éditions John Libay. Merci beaucoup.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner dans le bien-être cet après-midi. Alors à présent, on va passer à notre séquence Les mots du quotidien. Aujourd'hui, focus sur la ligature des trompes. Savez-vous en quoi consiste ce geste chez la femme qui souhaite une stérilisation à visée contraceptive? Est-ce douloureux? Toujours efficace? Eh bien, Benjamin Lévesque vous a interrogé sur le sujet. On écoute tout de suite son micro-trottoir.
Retirer les trompes de l'utérus, c'est lié aux femmes?
Généralement, c'est quand des femmes ont eu plusieurs enfants et qu'elles n'en veulent plus.
Quand des femmes ne veulent plus avoir d'enfants, qu'elles sont très fécondes, elles se font en fait ligaturer les trompes, ce qui fait que la femme ne peut plus avoir d'enfants.
Elles font ça surtout quand elles ont des cancers.
C'est pas conseillé de le faire trop jeune, il faut attendre quand même d'avoir eu des enfants.
Généralement on fait ça à l'hôpital, parce que c'est quand même une opération importante. Hein. Et je pense que là, une fois qu'on se fait ligaturer les trompes, on doit avoir mal encore quelques temps.
C'est pas une intervention qui est risquée à mon sens.
Jimmy, alors d'abord, on n'enlève pas les trompes, on n'enlève pas l'utérus, on n'enlève pas tout, hein, c'est pas du tout l'idée. Justement, Jimmy, la ligature des trompes, quel est son but finalement, et à qui éventuellement on peut la proposer? Parce qu'il disait aux femmes très fécondes, pas forcément d'ailleurs.
C'était touchant, c'était mignon.
C'était mignon,
ouais. Voilà.
Ouais.
Alors,
c'est pas que pour les très fécondes.
Non, effectivement. Alors, c'est une méthode de stérilisation à but de contraception, donc pour ne plus avoir d'enfants ou ne pas en avoir. C'est réservé aux femmes qui ont plus de 18 ans, majeures, et pas forcément à celles qui ont eu des enfants. Donc il est possible de se faire ligaturer les trompes, même quand on n'a pas eu d'enfants, même si souvent on attend un petit peu, puisqu'il y a un délai de réflexion, d'être sûr qu'elles le veulent. Et si on peut trouver l'équivalent chez l'homme, ce serait la vasectomie, qui est aussi une méthode de stérilisation à visée contraceptive.
Vous le disiez, il y a un délai de réflexion, c'est pas quelque chose qu'on peut faire sur un coup de tête, hein, quand même, c'est sérieux.
Exactement, alors c'est au cours d'une consultation, donc on va d'abord vous interroger pour savoir pourquoi est-ce que vous voulez faire ça, on a le droit, et on écrit votre demande, on vous remet une attestation disant que vous souhaitez subir cette intervention. on vous dit qu'on vous informe des autres moyens de contraception, parce que imaginez que tout d'un coup vous dites « Ah bah oui, je ne savais pas que le stérile existait ». Vous avez le droit de ne pas le savoir.
On sait jamais, bien
sûr. On doit vous donner cette information pour avoir un choix éclairé et prendre ensuite la bonne décision sur aussi la technique et les risques encourus au cours de l'intervention. On a un délai de 4 mois.
C'est long, hein, ouais,
avant
pour réfléchir.
De pouvoir, exactement, bah, puisque on le verra, ce n'est pas un truc anodin, avant de pouvoir éventuellement subir l'intervention.
Très rapidement, Jimmy, il se passe quoi au bloc? Donc on n'enlève pas les trompes, on n'enlève pas l'utérus, mais on fait quoi? Ligature, alors, ça veut dire?
Ligature. Le but du jeu, c'est d'empêcher la rencontre d'un spermatozoïde avec un ovule. Et pour ça, on a plusieurs possibilités, soit une occlusion immédiate des trompes, ou une occlusion différée, un peu retardée. Alors soit on va ligaturer les trompes au cours d'une anesthésie générale, ça va durer une quinzaine de minutes sous célioscopie, on fait des petits trous au niveau du ventre. On peut faire de l'électrocoagulation, donc on va en quelque sorte un peu griller la trompe. Ou on peut mettre un clip pour bloquer. Et puis enfin, on peut avoir l'occlusion, je dis progressive, on met un petit implant comme un plug qui va, donc on va mettre ça dans les deux trompes, qui va au cours des 3 prochains mois entraîner une fibrose empêchant la rencontre du spermatozoïde avec l'ovocyte.
D'accord. Est-ce que dans quel état on est après? Est-ce que c'est très invasif? Est-ce qu'on rentre chez soi? Est-ce que d'ailleurs ça a un impact après sur la vie de femme, des règles par exemple?
Sur la vie de femme par la suite. On a toujours des ovocytes. La seule chose, c'est qu'ils ne vont pas pouvoir rencontrer un spermatozoïde. L'intervention, elle est plutôt bien tolérée. On vous donne des consignes de surveillance puisqu'il y a des risques de complications. Donc, si à ce moment-là vous avez des douleurs abdominales, des saignements, une fatigue importante, on vérifie puisqu'on sait que ça peut toucher des organes à côté. Il y a risque de saignement et dans 1% des cas, il peut y avoir un risque d'échec justement.
J'allais vous demander aussi, est-ce que c'est irréversible vraiment? Est-ce que si on change d'avis finalement et que finalement on veut des bébés, c'est trop tard?
Il faut considérer que c'est irréversible, même si dans les faits on sait que parfois il y a un risque ou une chance de faire ce qu'on appelle une reperméabilisation des trompes. Ça marche pas très bien. Et encore une fois, si après vous avez un désir de grossesse, on peut parfois proposer des fécondations.
Si on le fait, faut être sûr qu'on veut pas d'enfant.
Mais exactement, faut considérer que c'est définitif.
Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h avec le docteur Jimmy Mohamed. Toujours au rendez-vous, Jimmy, n'est-ce pas? Vous attendez cette chronique avec impatience tous les jours.
Blocs, comme toute la rédaction d'Europe 1.
Oui,
je suis le seul
à l'avouer.
Quelque
chose.
C'est la seule
différence. Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes ici qui nous écoutent. Catherine, aujourd'hui, Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, on a une question qui nous a été laissée par Angèle. Elle nous dit la chose suivante. Mon mari est assez dépressif depuis quelques mois et du coup, en plus de son tempérament morose, il devient extrêmement jaloux me concernant. Dès que je ne rentre pas à l'heure, il précise. Où il m'attend, il pense que je suis avec un homme. Comment faire pour le rassurer? Car je crois que c'est surtout lui qui manque de confiance en lui. Catherine, est-ce que c'est le fait qu'il soit dépressif et du coup, il devient jaloux? C'est quelque chose d'assez logique et courant?
En fait, quand on est dépressif, d'abord, on perd tout élan. Le principe de la dépression, c'est de perdre le goût des choses, de la vie, du désir, de la sexualité, de tout. Or, le désir, c'est fondamentalement ce qui nous permet d'aller de l'avant et d'avoir un projet pour soi-même, d'être ambitieux pour soi-même. Le désir au sens large, je ne parle pas que sur le désir sexuel. Donc, à partir du moment où on est dépressif et que ce désir s'éteint, eh bien, on se retrouve complètement objet de la situation, objet du contexte, objet des autres. Et donc, ça renvoie à quelque chose de très régressif. Et là, certainement, un peu une position d'enfant qui n'est pas en capacité de se satisfaire lui-même et qui attend désespérément maman pour le nourrir, le changer, etc. Donc, si maintenant je le remets dans le contexte d'adulte, eh bien, en étant dépressif, il est dans un besoin de type dépendance à sa femme et que toute absence de sa femme qui jouit de la vie, qui jouit de l'extérieur, donc potentiellement d'un autre homme, parce qu'il, lui, ne se sent ni être un homme et il se sent ni être en capacité de subvenir à ses besoins qui alimentent sa joie au quotidien.
Est-ce qu'on peut justement devenir jaloux tout d'un coup sans que l'autre ait commis une erreur? Je ne dis pas qu'il y a forcément une faute de la part de quelqu'un, mais un homme qui était plutôt tranquille et qui tout d'un coup a des doutes sur ce que peut faire sa compagne, sans pour autant qu'elle n'ait commis un petit écart, des messages un peu étranges, des sous-entendus. Tout d'un coup, on peut se réveiller là et se dire « ça y est, je suis jaloux ».
Oui, parce que là, en l'occurrence, ça raconte sa propre défaillance à lui. Et de toute façon, même si elle n'a pas le moindre écart ni le moindre regard sur n'importe sur qui que ce soit, dans la réalité, il la voit jouir de la vie, ce dont il se sent incapable. Donc cette jouissance est par définition une tromperie. C'est C'est-à-dire que je m'enfonce et toi, tu as l'air d'être pleine de choses dont moi, je fais défaillance. Et donc, c'est de là que naît cette jalousie. Ce n'est absolument pas nécessairement porté par des événements. Il suffit qu'elle ait été contente de déjeuner avec des copines ou avec un collaborateur. De toute façon, tout devient sexué puisqu'il se sent complètement détruit dans la perception de la virilité, de sa position d'homme adulte. Et donc, cet état déprimé le fait se sentir plus un homme. Peut-être d'ailleurs ne bande-t-il plus, peut-être d'ailleurs a-t-il pris
du poids.
Ça,
c'est pas précisé, mais on imagine qu'il peut y avoir effectivement un impact sur leur vie sexuelle. Alors, on est d'accord, Angèle ne doit pas se plier à tous ces desiderata, rentrer à l'heure précise pour le rassurer. Non. Il faut qu'il aille se faire soigner, je crois, enfin se faire suivre.
Oui, c'est-à-dire que là, de toute façon, c'est venir et être au garde à vous, ce serait faire de son état dépressif un état tyrannique.
C'est l'entretenir dans ce truc-là.
Oui,
en plus,
c'est ça. Hein, ouais. Mais ça serait donc devenir, encore une fois, avec mon parallèle d'enfant, un enfant tyrannique. Et un enfant tyrannique n'est jamais, à aucun moment, un enfant qui sera paisible. Donc ça ne sert strictement à rien d'arriver à l'heure pétante précise pour rassurer, puisque de toute façon, son état dépressif fait le regard déjà déformé de la relation et du réel.
Donc on ne se soumet pas à ce que
mais
il
on
peut
l'accompagne.
Demander. Ouais, on l'accompagne, mais du coup, alors, c'est-à-dire qu'on va déroger à la règle. Au lieu de rentrer à 20h, on va rentrer à 20h30 et on va tirer un peu sur la corde. Comment est-ce qu'on
fait l'entre-deux,
en fait, parce
on
que
fait pas exprès pour entretenir le truc non plus.
On ne joue pas de sadisme.
Se soumettre, ça veut dire entretenir, pas le délire, mais cet état un peu pathologique. Mais ça veut dire quoi? Qu'il faut s'opposer dans ces cas-là. Mais si on s'oppose, le couple, il va exploser dans la vraie vie de tous les jours. C'est peut-être compliqué à gérer cette situation.
C'est-à-dire que si je dis que je rentre à 20h, je rentre à 20h. Maintenant, il est 20h10, il est 20h10. C'est-à-dire que la souplesse de
on ne fait pas exprès de rentrer à minuit non plus.
Oui, on reste pas en bas, on fume pas trois cigarettes. Voilà, non, certainement pas. On rassure l'autre, j'arrive, je vais avoir 10 minutes de retard, j'arrive, etc. Pour le mettre en sécurité, bien sûr. Mais quand après, elle est reçue avec la soupe à la grimace et l'anxiété grandissante, c'est pouvoir dire, est-ce que tu te rends compte que ce n'est pas à la mesure des événements? Et est-ce que tu te rends compte que tu es vraiment pas bien? En ce moment, je te sens déprimée, en ce moment, je
te sens
pas bien.
Toi,
je m'inquiète. Et du coup, on l'accompagne. C'est en ce sens que je disais, on l'accompagne. On n'abonde pas dans le sens pour pas qu'il soit tyrannique. On ne fait pas exprès par sadisme.
Jimmy voulait le faire craquer complètement.
Voilà.
Comme
non,
ça,
on ne fait pas exprès. Non, parce que évidemment, il n'a pas la compétence à assumer cette
on
relation et
dans le soin.
Mais on l'accompagne dans le soin, bien sûr.
Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils précieux. Comme toujours, donc à demain. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est Historiquement Vôtre avec Mathieu Noël et Stéphane Bern. Ils nous racontent l'histoire sans se la raconter tous les après-midi. Bonjour, messieurs.
Bonjour Mélanie. Vous connaissez le problème de Stéphane?
J'ai pas le droit de le dire, je crois.
Il est un peu obsédé. Pas autant
que les personnages du jour. Ils sont complètement obsédés par le sexe. Philippe d'Orléans, le régent.
Il le dit avec une conviction.
John
Fitzgerald
Kennedy, pensez qu'à ça. Et Tiger Woods, c'est votre personnage, vous.
Eh oui, c'est le golfeur le plus célèbre du monde. Et il a failli foutre en l'air sa carrière à cause d'une affaire de trou. Et hors des courses de golf, évidemment, Mélanie, à quoi pensez-vous?
Bien sûr. Alors, si vous êtes obsédé par le sexe, l'histoire, enfin, tout ce qui vous fait plaisir, n'hésitez pas. Comme Stéphane Bern, restez sur Europe 1.